Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Sur quoi votre chronique va porter aujourd'hui ?
Bonjour Sybille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de droit. Parce que ça manquait à mon sens depuis ma dernière chronique sur le concept de résistance en droit international. Et j'espère d'ailleurs que grâce à elle, vous avez su remettre à leur place les militants de la haine option Intifada. Des actualités juridiques sur le Proche-Orient, on en a eu à foison en quelques semaines. On a eu un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et Gallant, ainsi que contre Mohamed Def, ce dernier qu'on a tendance à oublier. Et on a eu, là, récemment, la dernière enquête d'Amnesty International qui, sans même se donner la peine de se rendre sur le terrain et d'aller enquêter par elle-même, a décidé qu'elle était plus qualifiée que les magistrats de la Cour internationale de justice qui a, elle au moins, fait l'effort de payer des billets d'avion à ses enquêteurs pour qu'ils se rendent sur place. Amnesty a donc décidé, toute seule et comme une grande, de se prononcer récemment sur la notion de génocide. Et ce, en menant une enquête grâce notamment à ses réseaux sociaux. Personnellement, je ne savais pas que TikTok et Instagram étaient devenus des filiales d'Interpol. Alors moi, je ne suis pas là pour remettre en cause les accusations de tout à chacun. De un, parce que je n'ai pas la prétention d'être plus qualifiée que les magistrats de la Cour internationale de justice, qui eux ont accès à des preuves que je n'ai pas. De deux, parce que mon but n'est pas de nier des potentiels crimes ou de chercher à minimiser des souffrances légitimes pour faire passer mes propres idéologies. Mon but à moi, c'est, pardonnez-moi l'expression sur une radio juive, de remettre l'église au milieu du village et de contrebalancer un peu les choses. Parce que juridiquement, je trouve qu'on a un peu beaucoup tapé d'un côté, mais de l'autre, j'ai l'impression qu'on a dit, comme disent mes petits cousins, OSEF. Traduction, on s'en fout. Qu'à cela ne tienne, on va changer tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un principe de droit bien connu. Et il se résume en une seule phrase. Deux points, ouvrez les guillemets. Le droit international humanitaire interdit formellement la prise d'otages ainsi que leur exécution. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus limpide. Mais parce qu'on ne va pas se contenter de dire que c'est pas bien, je vais vous donner des arguments pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas bien. Déjà, qu'est-ce qu'une prise d'otage ? Selon le Comité international de la Croix-Rouge, dans son article 3 sur son commentaire de 2016, la prise d'otage est définie comme, je cite, « le fait de s'emparer ou de détenir une personne et de menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage ». Bon allez, on va simplifier. En fait, il faut trois éléments pour qualifier une prise d'otage. Premièrement, la capture et la détention d'une personne. Deuxièmement, la menace de tuer, blesser ou de garder en détention cette personne qui devient donc un otage. Et trois, forcer par cette prise d'otage une tierce partie à se comporter d'une certaine façon. Exemple, forcer une famille à verser une rançon ou forcer une armée à quitter un territoire. La prise d'otage peut avoir lieu selon plusieurs natures de conflits. De 1, elle est expressément interdite en temps de conflits armés internationaux, c'est-à-dire un conflit armé qui oppose deux États, la Russie face à l'Ukraine par exemple. Elle est aussi interdite en temps de conflits armés non internationaux, le conflit au Soudan par exemple qui oppose deux généraux soudanais. Elle est enfin également interdite en temps de résistance. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le droit humanitaire, qui dit que même quand un peuple lutte contre une domination coloniale, cela doit être considéré comme un conflit armé international. Et donc, comme je viens de le dire, pendant les conflits armés internationaux, la prise d'otages est interdite. Donc on a compris, c'est interdit partout et à de nombreuses reprises. Et les fous furieux de l'Intifada ne peuvent pas vous faire croire qu'ils ne le savaient pas parce que tous ces textes qu'ils interdisent, eh bien le pays qu'ils défendent avait promis de les respecter. C'est drôle cette façon qu'on a de rappeler à un pays ses obligations en matière de droit international et pas à un autre. Et alors là, accrochez-vous parce que je vais vous dresser la liste. Prêt ? Voici tous les textes qui interdisent la prise d'otages. 1. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, à son article 6.1 et 9.1, ratifié par l'État de Palestine en 2014. Juste pour vous préciser, ratifier un texte veut dire que l'État l'a signé et a promis de l'appliquer. On continue ? Deuxième texte, la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949, qui dit à l'article 34 que la prise d'otage est interdite, ratifié par l'État de Palestine, aussi en 2014. 3. Le protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux à son article 75, ratifié en 2018 par l'État de Palestine. 4. Le statut de Rome de 1988 établissant la Cour pénale internationale à son article 82 qui définit la prise d'otage comme un crime de guerre, ratifié en 2015 par l'État de Palestine. Et enfin, 5. toutes les conventions de Genève qui imposent à tous les États signataires l'obligation aux articles 49, 50, 129 et 146 de rechercher les personnes suspectées d'avoir commis les crimes de guerre, donc la prise d'otages, l'obligation de les juger devant ses propres tribunaux et, si l'État n'a pas de tribunaux viables, de les remettre à un autre pays que pour qu'ils puissent être jugés. Tous ces textes ont été ratifiés en 2014 par l'État de Palestine. En clair, Mahmoud Abbas aurait dû rechercher les membres du Hamas, les juger, et s'il ne pouvait pas le faire lui-même, les livrer à la Cour pénale internationale ou à un autre État. Simple. Et vous avez entendu quelqu'un réclamer de lui ou du Qatar qu'il livre les membres du Hamas ? Pas vraiment. Pourtant, le Qatar a aussi ratifié les conventions de Genève. Donc si on applique le droit international stricto sensu, ils auraient dû livrer les membres du Hamas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut qu'il faut arrêter de prendre le droit comme une supérette dans laquelle on choisirait en fonction de ses envies du jour quelles règles on doit appliquer. Que les soldes, ça n'existe pas dans le droit international. On ne peut pas appliquer des promotions spéciales ni des ventes privées qui permettraient de s'exonérer de ses obligations. On en conclut aussi que quand on mène des enquêtes sur un conflit qui arrache la vie à des milliers de personnes d'un côté comme un autre de la frontière, on laisse les tribunaux se prononcer, au lieu de rajouter des braises sur un volcan déjà en furie. On en conclut que si vraiment on tient à mener une enquête, on le fait de façon impartiale et pas en jouant les aveugles sur ce qui ne nous arrange pas. Vous voulez véritablement ramener la paix et faire preuve de justice ? Alors appliquez le droit de façon universelle, pour tous les coupables, pour toutes les violations du droit international humanitaire, pour toutes les victimes. Sinon, on n'est ni humaniste, ni pacifiste, on est simplement idéologiste et propagateur de haine.
Merci Sarah pour ces rappels juridiques essentiels. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.